France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Il y a encore, disons, un an, on ne savait même pas que ça existait. On a découvert d'abord le mot, les initiales, ARN messager, puis on a compris que le vaccin qui nous sortirait de cette pandémie passerait par ces trois lettres majuscules et ce petit M. Depuis, on a aussi entendu, lu, vu, beaucoup de bêtises. Ce qu'on ne connaît pas, le réflexe de certains, c'est de le combattre. On a entendu confondre ARN messager avec thérapie génique, on a entendu qu'on allait changer notre ADN, on a entendu qu'on ne savait rien d'une technique qui venait tout juste d'être inventée. En réalité, les premiers articles sur l'ARN datent de la fin des années 80, la faisabilité d'un vaccin, le vrai moment de basculement, ça commence en 1993, depuis on a cessé d'y travailler. L'ARN c'est une révolution médicale, c'est surtout beaucoup de questions et on va mélanger un peu les deux ce soir. Grâce à un livre très didactique qui sort chez Odile Jacob qui s'appelle « La révolution de l'ARN messager » tout simplement, qui raconte les premiers textes, les premières réussites, les gamelles aussi, on essaiera de vous les résumer avec l'auteur et avec un médecin qui a aussi participer à cette aventure de l'ARN. Vous avez le droit de venir comme vous êtes, avec vos doutes encore subsistants, avec ce que vous n'avez pas encore compris, avec vos questionnements sur l'après. Désormais, peut-être l'ARN sera-t-elle utilisée, mais sur quoi? Pour quel type de maladie? On parle de révolution, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on pourra soigner d'autre? On nous parle de certains cancers, mais quand? Est-ce que c'est pour demain? Allez-y sans crainte, vos questions sont les nôtres. C'est le téléphone sonne, bonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, commençons par le début, et c'est vous, Roger, qui allez avoir cette tâche. Bonsoir à vous, et bienvenue.
Allô?
On vous entend, Roger.
Vous m'entendez?
Mais absolument.
Bon, et bien tant mieux. Ben donc, ma question, elle est toute simple. Que signifie, qu'est exactement l'ARM messager? Parce que maintenant, c'est devenu pratiquement un lieu commun, comme pour plein d'autres occasions d'information. Donc, que signifie exactement, dans le concret, ce qu'est un ARN?
Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Roger, quand je disais qu'il fallait remettre le métier sur l'ouvrage. Et pourquoi pas, en fait, réexpliquer les choses. Merci à vous, Roger, pour répondre à toutes vos questions avec nous en studio. Fabrice Delahaye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, c'est vous qui avez écrit La révolution de l'ARN messager aux éditions Odile Jacob. C'est tout neuf, ça sort maintenant. Et puis, Steve Pascolo est là aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes immunologiste à l'hôpital universitaire de Zurich, spécialiste justement de cet ARN. Et c'est avec vous qu'on va commencer, Steve Pascolo, pour réexpliquer les choses à notre ami Roger. Comment dire de manière simple, encore une fois, et très compréhensible, ce qu'est cet ARN messager qui nous occupe tant depuis plus d'un an?
Chacune de nos cellules, on a des milliards de cellules, contient un noyau. Et dans le noyau, il y a de l'ADN. L'ADN est copié en ARN et l'ARN donne des protéines. Alors pour faire un parallèle, on peut dire que l'ADN, ce serait un livre avec toutes les recettes du vivant. Et l'ADN, ce sont des photocopies de certaines de ces recettes. Photocopie de l'insuline, photocopie d'un anticorps, photocopie de collagène. Donc, dans les cellules, les gènes de l'ADN sont copiés en ARN messager. Et cet ARN messager est lu par la cellule. Il donne une protéine. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces ARN messagers sont détruits après être lus. Donc, le livre, lui, reste. L'ADN reste dans la cellule. Il ne change pas. Par contre, les ARN messagers sont en permanence produits, donc comme des photocopies sont produites des gènes, et en permanence lus puis détruits.
Et Steve Pascolo, rappelez-nous ce que c'est qu'un vaccin, j'allais dire traditionnel en fait. En quoi celui-ci a révolutionné notre manière de voir les vaccins?
Il y a plusieurs types de vaccins traditionnels. Il y a des vaccins à base de protéines, comme le vaccin de l'hépatite B ou le vaccin contre le papillomavirus. Il y a des vaccins à base d'ADN aussi, donc parce qu'il y a des virus qui sont utilisés pour faire des vaccins qui sont des virus à ADN. Et puis, il y a aussi des vaccins, depuis longtemps, depuis 100 ans, des vaccins à ARN messager. Ce sont des vaccins à ARN messager naturels. Mmh. Par exemple, le vaccin de la fièvre jaune, qui a presque 100 ans, c'est un virus qui contient de l'ARN messager. Donc lorsque vous injectez le vaccin contre la fièvre jaune, au fait, ce qu'on vous injecte, c'est de l'ARN messager naturel. Et vos cellules prennent cet ARN messager, le lisent, font les protéines de la fièvre jaune, et votre corps fait une réponse immunitaire contre ces protéines. Donc le principe d'injecter de l'ARN messager pour faire une réponse immunitaire. On l'utilise depuis presque 100 ans. C'est le cas donc pour la fièvre jaune, pour le oreillon, rougeole, rubéole. Tout ça, ce sont des vaccins que vous avez eus, que tout le monde a eu, et qui fonctionnent avec de l'ARN messager naturel, de l'ARN messager qui est contenu dans un virus atténué. Et là, maintenant, avec les ARN messagers synthétiques, on copie, au fait, ces ARN messagers naturels. On en fait des ARN messagers synthétiques qu'on met, au lieu qu'ils soient dans un virus, ils sont dans une petite bulle de gras qu'on appelle un liposome. Et puis ça, donc, on l'injecte, vos cellules prennent l'ARN messager et font les protéines instruites par l'ARN messager, en l'occurrence contre le Covid, la protéine de surface du SARS-CoV-2. Donc le mode d'action des vaccins ARN messager synthétiques nouveaux est le même que le mode d'action des vaccins contre la fièvre jaune, les oreillons, rougeole, rubéole que vous avez eu.
Alors c'est important que vous redisiez ça parce qu'il y a à nouveau des questions et c'est tant mieux sur le recul que l'on a ou que l'on n'a pas. Fabrice Delay, moi ce que j'ai découvert en lisant votre livre, enfin ce qui nous revient réellement en mémoire, c'est que l'ARN, le début, ça date effectivement, je le disais, de 89, et puis il y a le moment d'ouverture, on va dire, les premiers papiers vraiment qui ont du sens, ça date de 1993, mais vous dites aussi que l'ARN a été délaissé, voire méprisé, y compris par la médecine à un moment. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas dit tout de suite, oula, il y a quelque chose là derrière ?
Ben écoutez, il y a 10 mois à peu près, justement à l'occasion d'une discussion avec Steve Pascolo, je me suis rendu compte qu'effectivement, il m'a raconté son histoire et la difficulté que lui-même avait eue à faire publier des articles scientifiques sur ce sujet. Et puis j'ai commencé à creuser et il m'a dit une chose très importante qui m'a beaucoup guidé dans mon travail. Il m'a dit, en fait, il y a tout dans la littérature scientifique et on peut retrouver les articles scientifiques. Et donc en retrouvant les articles scientifiques, on retrouve les chercheurs et je les ai contactés, j'en ai contacté une quarantaine, et ils m'ont raconté leur histoire, et c'est une histoire effectivement où ils ont toujours été un petit peu méprisés.
Snobés, vous dites, snobés par les grandes revues, même.
Par les grandes revues,
par les entreprises pharmaceutiques. Voilà, on n'existe pas.
Et parce que beaucoup pensaient qu'on pourrait développer soit des vaccins, soit des thérapies avec l'ADN, et parce que l'ADN est plus stable, l'ADN n'est pas attaqué justement comme l'ARN est détruit relativement facilement, donc il fallait trouver des moyens de protéger cet ARN pour pouvoir lui faire ce travail d'expression de ces protéines, et ça a pris beaucoup de temps, et effectivement, à la fois les entreprises pharmaceutiques dès le début des années 90, Merck dès le début des années 90, effectivement, le Merck a dans les mains une des premières recherches qui aurait pu donner l'ARN. Ça ne va pas se passer. Ensuite, en 93, à l'Institut Cochin, Pierre Meulien et Frédéric Martineau vont aussi développer en fait ce qui va être le premier vaccin, la première démonstration vaccinale à partir d'ARN, mais BioMérieux va pas y croire, il va dire non, c'est impossible à faire, impossible à industrialiser.
Et ce qui est fou, non, je vous en prie, avec le recul aujourd'hui, c'est que ça veut dire que la France avait toutes les cartes pour développer le premier vaccin ARN, en fait. Là, on l'a suffisamment dit, et plusieurs fois, on est très en retard, on n'a vraiment pas été les premiers, on est vraiment très en retard sur le vaccin, sur l'ARN et sur le reste. On aurait pu être les premiers, on avait toutes les cartes en main pour l'être.
Il y avait encore beaucoup de recherches à mener.
Certes, oui. On était en avance par rapport à d'autres, visiblement.
Mais effectivement, on n'était pas les seuls. D'autres aussi avaient aussi des pistes, mais elles n'ont pas été exploitées. Parce que souvent, on ne croit pas aussi bien dans les entreprises que dans les États. On veut tout de suite des applications et on ne veut pas donner le temps de la recherche qui est long, qui est risqué aussi, parce que c'est pas toujours qu'on réussit. Il y a beaucoup de déceptions. Il faut beaucoup de temps.
Steve Pascolo, comment vous expliquez-vous que vous vous êtes heurté pendant si longtemps à un mur, au fond ? Est-ce que vous vous dites, ça aurait pu être nous, en fait, et peut-être même qu'on a perdu du temps ?
Effectivement, il faut rappeler que le vaccin ARN messager est une histoire française et un succès allemand. Une histoire française parce qu'en 1961, c'est en France que François Jacob et Jacques Monod en particulier découvrent l'ARN messager. À nouveau, cette molécule est dans tous les organismes vivants. Donc, ils découvrent cette molécule en 1961. Ils ont le prix Nobel en 1965 à l'Institut Pasteur. Et ensuite, le premier article vaccin ARN messager est à nouveau français. Professeur Meulien en 1993. Donc, là, on a vraiment C'est assez rare d'ailleurs dans le même pays la découverte d'une molécule, puis la démonstration de son utilisation en médecine. Donc ça c'est vraiment 100% français. Et ensuite, le succès a été développé par les compagnies allemandes, en particulier BioNTech à Mayence. Nous à CureVac, on a été les premiers effectivement à se dédier à ce format de traitement, CureVac, parce qu'on pensait pouvoir offrir des cure et des vaccins grâce à l'ARN messager. On était très ambitieux sur le potentiel de cette molécule, donc qu'on connaissait déjà. Mais effectivement, il y avait cette notion que l'ARN messager est fragile.
Ouais.
Donc le monde entier, les chercheurs et les médecins du monde entier se disaient non, l'ARN messager est fragile, vous ne réussirez pas à en faire un produit pharmaceutique. Et moi, quand je présentais mes résultats de recherche dans les années 2000-2002, dans les congrès, c'était assez rare que je sois invité, mais parfois donc je réussissais à me faire inviter, enfin à avoir un talk. Et à la fin de mon talk, j'avais toujours des audiences qui ne posaient aucune question, parce que les 300-500 personnes qui étaient là se disaient mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci avec ces ARN messagers, ça ne servira jamais à rien. Et jusqu'à 2019, beaucoup de mes collègues me disaient, mais Steve, les ARN messagers ne seront jamais quelque chose d'utile pour la médecine. Donc, parce qu'il y avait ce préjugé que leur fabrication était trop difficile et que leur fragilité serait un obstacle incontournable. Or, la fabrication est très facile et la fragilité, dès le début, je l'ai pressenti comme un avantage de sécurité. C'est-à-dire que pour moi, surtout pour des vaccins prophylactiques, où vous injectez quelque chose à des gens en bonne santé et vous voulez les protéger contre éventuellement une maladie, il faut vraiment essentiellement que ce que vous injectez soit très sûr. Et l'ARN offrait cette sécurité parce qu'effectivement, lorsque vous injectez cette photocopie, très vite elle est détruite, ça ne laisse pas de traces. Donc pour moi, c'était un vecteur particulièrement sûr pour justement faire des vaccins en particulier prophylactiques.
Allez, retour au standard avec Claude qui est en Lozère. Bonsoir Claude.
Et bonsoir France Inter, merci de prendre mon appel.
Allez-y.
Alors là, je viens d'entendre des choses très intéressantes qui sont à la fois complémentaires à une rassurance et en même temps un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que bon, on voit que l'ARN a été étudié depuis des années et qu'il n'y a pas eu tellement de suite d'études pendant des décennies. Et d'un seul coup, donc, on est confronté à une pandémie mondiale, on est confronté à un nouveau virus, même déviant d'anciennes souches, et on se retrouve en moins d'un an, en fait, avec un vaccin donc qui n'est pas révolutionnaire au sens de sa recherche, mais au sens de son application. Et même si des échantillons humains ont servi effectivement à ces études dans une certaine proportion, on se rend compte quand même qu'on n'a pas tellement de panel de population et on a moins d'un an de recul sur l'application de cette thérapie. Alors je voulais savoir éventuellement comment c'était possible, sans avoir tout ce recul médical, pour assurer effectivement que c'était la panacée et que c'était la voie de l'avenir et surtout la résolution d'un Covid actuel.
Merci beaucoup Claude. Je vous pose la question à tous les deux. Fabrice Delay, d'abord vous avec votre casquette de journaliste et presque historien sur cette matière. Le premier ARN injecté sur un humain, c'est quand ?
Eh ben c'est en 2003, si mes souvenirs sont exacts, et c'est notre autre invité, c'est Steve en fait qui est le premier va être injecté. Et je crois, il est toujours en très bonne forme, donc voilà.
Et de l'ARN codant pour des protéines de
mouche. Et c'est là-dessus que je vais vous charger, voilà. Steve, parce que notre auditeur, Claude, il dit, j'ai bien compris qu'on l'a découvert bien avant, qu'on a étudié beaucoup de choses bien avant, mais il n'y a pas eu de suite. Quelle suite il y a eu pour pouvoir rassurer Claude et lui dire que le premier test qu'on a fait, c'est pas sur les premiers vaccinés du Covid-19?
Non, effectivement. Donc, j'ai commencé les premiers essais cliniques au monde. Je les ai faits à Tübingen, en passant par moi. Donc, des injections d'ARN messager qui codent pour des protéines de mouche qui s'appelle la luciférase, qui fait de la lumière, pour vérifier que l'ARN messager injecté chez l'homme était effectivement sans danger et fonctionnel. Et on a fait dès 2003 donc des essais cliniques de vaccins ARN messager chez les patients cancer. Mais il faut comparer ces 20 dernières années. Si je fais un parallèle, c'est comme l'avion des frères Adler jusqu'au Concorde. Donc, en 50 ans, vous êtes passé d'un avion qui fait un bond de 20 mètres à un avion supersonique qui traverse l'Atlantique en 4 heures. C'est le même parallèle qu'on peut faire sur les 20 dernières années ou 30 dernières années de recherche sur l'ARN messager. On avait, il y a 20 ans, 30 ans, des coucous, donc de l'ARN messager peu efficace, des liposomes ou des nanoparticules peu efficaces. Et pendant 20 ans, bien sûr, les gens n'entendaient pas parler de l'ARN messager, mais on avait tous les ans des grandes nouveautés, des grandes révolutions qui permettaient d'améliorer l'ARN messager, qui permettaient d'améliorer les liposomes. Et donc, ces 20 dernières années, on est vraiment passé du coucou au Concorde, donc de vaccin ARN messager peu efficace, qui était quand même sûr, mais qui ne fonctionnait pas très bien, à des ARN messagers, des vaccins ARN messagers très, très efficaces qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que si la pandémie avait eu lieu en 2015, on n'aurait pas eu probablement ces vaccins aussi efficaces qu'ils sont aujourd'hui. C'est vraiment chaque année, depuis 20 ans, on progresse énormément sur l'efficacité du vaccin ARN messager. Donc, en 2020, on était effectivement mûr. Bon, la technologie continue à évoluer. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, vous aurez des vaccins encore plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils fonctionneront avec encore moins d'ARN. Là, dans le vaccin BioNTech Pfizer, c'est 30 microgrammes. Dans deux ou trois ans, on aura encore amélioré l'ARN et le liposome de façon à ce qu'ils fonctionnent avec, disons, 2 microgrammes ou même moins d'un microgramme. Donc, l'amélioration est continue. Et donc, maintenant, effectivement, avec 30 microgrammes, ça fonctionne. Pour vous dire, il y a 20 ans, on injectait, dans les premiers essais cliniques de vaccins ARN messager contre le cancer que j'ai fait, on injectait jusqu'à 800 microgrammes par injection, tous les jours, 3 jours par semaine, pour avoir une réponse immunitaire. Donc, vous imaginez.
Donc, ce sont des doses qui sont plus que, enfin, incroyablement supérieures à ce que
je, voilà. 100 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui.
Dans le bras.
Voilà. Donc, parce qu'on était 100 fois moins efficace. Et comme ça, en 20 ans, on a augmenté 100 fois, 200 fois l'efficacité globale du vaccin ARN messager en améliorant l'ARN messager synthétique, en améliorant le liposome de façon à obtenir maintenant des vaccins très efficaces. Et à nouveau, ça continue. Donc vous aurez dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, des vaccins encore plus efficaces, c'est-à-dire avec des doses encore moins grandes. Vous pourrez avoir des réponses immunitaires très fortes induites par ces vaccins. Donc c'est des progrès continus. Et donc, bien sûr, les gens n'en ont pas entendu parler avant 2020, mais ça fait 20 ans qu'on était très seul il y a 20 ans, mais chaque année, il y avait un peu plus de gens dans nos congrès d'ARN messager qui venaient, et tous ces gens apportaient donc des nouvelles idées, des améliorations, et peu à peu, par pas de fourmi, donc on a augmenté comme ça, je vous disais, de 200, 400, 1000 fois l'efficacité du vaccin ARN messager, qui fait qu'on a ce vaccin aujourd'hui qui fonctionne et qui fonctionnera encore mieux demain.
Et Fabrice Delesch, c'est l'une des raisons peut-être pour laquelle vous avez regroupé tout ça, toute cette historique, toute cette histoire, et rencontré tous ces chercheurs aussi, parce que c'est vrai qu'on a dit et entendu tellement de choses. À un moment, on se dit, en effet, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, il faut remettre les choses bien, bien à plat pour expliquer vraiment ce qui est en train de se passer.
Absolument, mais ce que mon livre raconte aussi, c'est que sur la lenteur des progrès, en quelque sorte, que Claude soulignait, et puis d'un seul coup, leur accélération, c'est qu'il faut comprendre, c'est l'histoire de deux technologies en parallèle. D'un côté, il y a la technologie biologique, l'ARN, qui va, avec son message, exprimer la protéine qu'on souhaite exprimer. Mais de l'autre, il y a cette enveloppe qui le protège, c'est liposome qu'on appelle aujourd'hui des particules des nanoparticules de lipides. Et c'est ces deux progrès en parallèle qui vont converger, qui vont permettre à la fin d'arriver. C'est une histoire en fait pleine de rebondissements, parce qu'évidemment il y a aussi des gens qui se font des procès parmi autour de la des brevets. Il y a des concurrences entre chercheurs. Enfin, il y a des entreprises pharmaceutiques qui sont pas convaincues
mais des startups qui peuvent passer devant Big Pharma d'un coup. Ce que vous racontez aussi.
C'est ce qui se passe. Les deux vaccins sont produits par Moderna, et qui a été créé en 2011, et par BioNTech, qui a été créé en 2008 pour les deux vaccins approuvés. Et CureVac avait commencé en 2000. Donc, ce sont des très jeunes entreprises qui ont pris plus de risques, qui ont pu se permettre de prendre ces risques parce que ils avaient des investisseurs qui les ont soutenus, qui ont cru en ce qu'ils voulaient faire.
Pour laquelle je vous pose la question, c'est qu'on dit toujours Big Pharma, mais là en l'occurrence, Big Pharma est arrivé derrière.
Non, vous avez le numéro 1 mondial du vaccin, GlaxoSmithKline n'a pas de vaccin. Vous avez le numéro 2 mondial du vaccin, Merck n'a pas de vaccin. Vous avez le numéro 3 mondial du vaccin, Sanofi n'a pas de vaccin. Et Pfizer, qui est le numéro 4, en a un, mais il a celui de BioNTech. En réalité, tout le monde l'appelle le vaccin Pfizer, mais enfin,
la start-up c'est BioNTech,
et c'est Ugur Sahin et Özlem Türeci qui sont quand même des gens absolument excellents. exceptionnels qui ont développé cela. Quoi. Pour le cancer d'ailleurs, hein. Alors, ils voulaient le faire pour le cancer et ils ont pu l'adapter dans l'urgence à ces vaccins. Mais je voulais juste ajouter une chose pour répondre à Claude. C'est si on fait une si on avait fait une technologie vaccinale classique qui prend beaucoup plus de temps, disons entre 5 et 10 ans. La période dans laquelle on obtient le vaccin à la fin et la période d'essai clinique n'aurait pas été différente. On aurait eu, en gros, une période comparable. Simplement, c'est le temps de développement précédent. Et c'est là où on voit l'avantage de l'ARN messager. Et c'est là où, et c'est pour ça que ça ouvre tout un tas de nouvelles possibilités, y compris, pas pour des vaccins, mais pour des thérapies. C'est parce que ça va vite et que c'est relativement simple, en tout cas plus simple que les techniques qui existent jusqu'à présent, qui demandent énormément de contrôle pour qu'il n'y ait pas de contagion entre les différents éléments qui sont utilisés. C'est plus simple à développer que les technologies qu'on a utilisées jusqu'à présent. Et c'est pour ça que c'est une révolution.
Steve Pascolo a parlé tout à l'heure de son premier patient cancer. Vous avez évoqué, vous aussi, Fabrice Delay, les premières utilisations. Je voudrais qu'on écoute Marie-Paul. Bonsoir, Marie-Paul.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, d'abord, je suis très émue et honorée d'être en contact avec Monsieur Pascolo, dont je suis les travaux depuis le mois de janvier. Nous suivons en famille ces travaux et nous sommes très impressionnés par la simplicité et la clarté de ces explications. Et je remercie France Inter. Donc, mes questions, à l'heure actuelle, y a-t-il des résultats prometteurs ou même concrets sur les essais thérapeutiques ARN messager en cours sur les tumeurs solides, notamment pour le pancréas? Où se pratiquent ces études? Et à propos des essais thérapeutiques combinant ARN messager et cellules CAR-T, je suis moi-même atteinte d'un cancer du pancréas. Je suis traitée par FOLFIRINOX depuis 16 mois. Ce sont des cures sont très dures, mais que j'arrive à supporter pas si mal finalement.
Et tant mieux, Marie-Paul. Vraiment, on est contente de vous avoir eu au téléphone, et je pense que Steve Pascolo a été ému aussi par ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Marie-Paul? Où en sommes-nous là-dessus, Steve Pascolo, notamment sur les tumeurs solides, comme elle le disait?
D'abord, Marie-Paul, merci beaucoup pour votre gentil message. Et puis, bon courage à vous. La thérapie, effectivement, FOLFIRINOX est quand même une thérapie assez difficile. Donc, bon courage à vous. Et effectivement, pour les vaccins ARN messager anti-cancer sont en développement de phase 2, surtout dans le mélanome. Donc, BioNTech et Moderna sont tous les deux en phase 2 sur les tumeurs solides, donc en particulier le mélanome. Donc, il va falloir encore attendre pour valider ces vaccins ARN messager contre le cancer. Ce sont souvent des vaccins individualisés, c'est-à-dire qui sont faits sur mesure. Et il y a des types de tumeurs, comme le mélanome, les tumeurs du rein, qui répondent à ce qu'on appelle aux immunothérapies, qui sont assez sensibles au système immunitaire et qui peuvent être éliminées avec le système immunitaire. C'est malheureusement pas vraiment le cas pour le cancer du pancréas, qui est un cancer qui résiste au système immunitaire assez largement. Les immunothérapies ne sont pas utilisées, ont été testées dans le cancer du pancréas, mais n'ont jamais vraiment fonctionné. Par contre, effectivement, comme Marie-Paul disait, il y a, à part les vaccins ARN messager, on peut utiliser l'ARN messager pour d'autres utilisations qui sont des thérapies. Et on fait ce qu'on appelle des cellules CAR, donc ça veut dire ce sont des cellules, on prend du sang des patients et on transforme transitoirement grâce à l'ARN les cellules sanguines pour en faire des cellules tueuses de cancer. Donc pendant 2 ou 3 jours, ces cellules donc transformées in vitro parce qu'elles ont été modifiées par l'ARN messager, pendant 2 ou 3 jours vont exprimer un récepteur qui va faire qu'elles vont tuer les cellules cancéreuses. Et après 2 ou 3 jours, comme l'ARN est détruit, les cellules vont redevenir normales. Et ça s'appelle CAR T-cells. Et effectivement, il y a eu des patients traités par des cellules CAR faites par mRNA, donc un patient cancer aux États-Unis, un patient cancer du pancréas aux États-Unis il y a presque une dizaine d'années, qui a répondu à cette thérapie. Et on développe ça ici à Zurich où je travaille, donc effectivement les CAR T-cells, parce que ça c'est vraiment une approche qui permet de répondre de manière individualisée à chaque patient, parce qu'on peut chez chaque patient prendre du sang, faire ces transfections d'ARN messager dans les cellules sanguines, et donc donner aux patients des cellules sanguines qui vont tuer les cellules cancéreuses. Donc ça, je me bats ici à Zurich pour mettre ça en place. C'est vraiment une solution qu'il faut absolument qu'on ait pour des patients comme Marie-Paul, pour leur offrir en plus de leur thérapie standard, ces thérapies à base d'ARN messager qui vont leur permettre d'ajouter de manière sécurisée et sans effet secondaire donc un autre atout dans la lutte anti-cancer. Malheureusement, ces cellules, donc CAR T-cells à base d'ARN messager, ne sont pas encore en place en Europe. Donc je me bats à Zurich pour avoir cette plateforme. J'espère pouvoir l'avoir. Il faut des financements, il faut de la place, il faut du soutien. Et malgré la pandémie de Covid qui a montré l'efficacité de l'ARN messager et son utilité et sa facilité de production, il y a encore des résistances nombreuses.
Qui viennent de vos pères, Steve Pascolo?
Oui, qui viennent de nos pères, ouais. Donc de la politique, des hôpitaux, bien sûr de l'argent. Ce genre de thérapie ne sont pas rentables, donc les compagnies ne développent pas ce genre de thérapie à base d'ARN messager. Pour faire des CAR T-cells, donc il faut le faire de manière académique, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent, et donc il faut trouver de l'argent. Ce sont des philanthropes qui financent ce genre de travaux, mais il faut leur donner aussi beaucoup d'explications, il faut prendre son temps pour expliquer. Mais bien sûr, on est motivé par des patients comme Marie-Paul, on est motivé par les gens qui ont des cancers, qui se battent, qui ont maintenant des chimiothérapies, des immunothérapies qui fonctionnent bien, mais effectivement, il faut continuer à développer, à innover, et ces cellules CAR T-cells faites à base d'ARN messager sont vraiment très prometteuses. Je me bats surtout là avec un collègue de la neurologie pour les glioblastomes. Les glioblastomes, comme le cancer du pancréas, ne répondent pas aux immunothérapies. Donc il faut vraiment mettre en place pour les patients glioblastomes, pour les patients pancréas, pour les patients mésothéliomes, il faut mettre en place ces cellules CAR T-cells individualisées avec de l'ARN messager. Et donc ça se met en place. Il faut être patient et on continue à se battre.
Et Fabrice Delay, si c'est aussi cher et si c'est aussi difficile, moi je suis épaté parce que nous dit Steve Pascolo sur le fait que, y compris par ses pairs aujourd'hui, alors que l'efficacité théoriquement n'est plus à faire, même pour lui et même maintenant, ça reste difficile.
Oui, il y a toujours beaucoup d'inertie. Chacun défend aussi sa propre approche. Il y a des approches concurrentes, particulièrement en immunothérapie actuellement dans le monde du cancer. Il y a énormément d'anticorps monoclonaux qui ont été développés par Big Pharma justement, et donc ils veulent aussi pouvoir aller au bout de cet exercice éventuellement avant de passer à autre chose. Je connais pas tous les détails. De ça. Ce que je veux juste dire, d'abord, je vais pas faire une réponse, donner de faux espoirs à Marie-Paul, son message est extrêmement émouvant, mais et ça serait irresponsable de ma part, mais je crois me souvenir qu'il y a quelque chose comme 800 essais de CAR T-cell actuellement en développement. Elle peut regarder sur la base de données des essais qui est répertoriée aux États-Unis, qui s'appelle clinicaltrial.gov, et là il y a à peu près tous les grands essais qui sont menés dans ce domaine, et c'est un domaine qui est quand même en train de très fortement se développer, peut-être pas assez en Europe.
Steve, parce que quand je vous comprends, je vois bien que on peut accompagner un traitement qui existe déjà. Est-ce qu'on peut aussi imaginer faire reculer les cancers? Est-ce qu'on peut imaginer empêcher les rechutes également ou pas?
Oui, tout à fait. D'abord, je veux dire à Marie-Paul aussi qu'elle regarde le site de BioNTech en Allemagne, qui a été créé par ce formidable Ugur Sahin et Özlem Turici, qui sont tous deux oncologues. Et il y a beaucoup d'essais cliniques chez BioNTech avec des ARN, mais aussi avec d'autres molécules. Et il y a aussi donc des essais qui recrutent les patients souffrant d'un cancer du pancréas. Donc, il faut que Marie-Paul aille sur le site de BioNTech. Ils ont un onglet pour écrire un message. Ils répondent à tous les messages de patients et ils vont vous orienter pour vous dire si dans votre cas, il y a des essais de BioNTech qui recrutent. Et à ce moment-là, donc peut-être vous pourrez entrer dans un essai clinique de BioNTech, ils sont tous formidables, donc il faut vraiment effectivement regarder comme le disait donc
Fabrice Delay.
Fabrice Delay, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié Fabrice, j'ai oublié votre prénom. donc il faut effectivement regarder sur clinicaltrials.gov, mais aussi vraiment chez BioNTech, qui sont formidables, qui ont des choses formidables.
Et donc, pour revenir à ma question, est-ce qu'on fait aussi reculer les cancers? Est-ce qu'on empêche aussi les rechutes? Où sont les cibles?
Tout à fait. Tout à fait. Les vaccins ARN messager sont utilisés donc à la fois chez des patients qui ont des métastases, et on regarde si les métastases diminuent, et à la fois chez des patients qui n'ont plus de cancer, parce qu'ils ont été opérés, par exemple d'un cancer du sein, par exemple d'un mélanome qui a été enlevé. Donc les patients sont guéris, mais avec un grand risque de rechute. Donc là, vous vaccinez les patients pour éviter les rechutes. Donc il y a vraiment les deux approches, à la fois thérapeutique, on injecte des vaccins ARN messager, on regarde si les cancers régressent, et d'une certaine manière prophylactique, chez des patients qui n'ont plus de cancer, on va les injecter avec le vaccin et voir si ils sont plus protégés contre les rechutes par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés. Et le problème de ces essais cliniques dans le cancer, c'est que ça prend beaucoup de temps, mm-hmm. parce que vous devrez documenter que les patients profitent du vaccin, c'est-à-dire qu'ils vivent plus longtemps que les patients qui sont traités par d'autres manières. Donc il faut attendre des années pour statistiquement prouver que votre vaccin ou votre thérapie à base d'ARN messager a donné, a rallongé la vie ou ce qu'on appelle relapse-free survival, c'est-à-dire la pas de récurrence du cancer pendant plus de 5 ans. Donc ça prend beaucoup de temps pour valider les thérapies anti-cancer, plus que pour valider les thérapies contre un virus, comme c'était le cas pour Covid.
Bonsoir Francis.
Francis, oui, bonsoir.
On vous écoute, Francis, allez-y.
Oui, bonsoir. Déjà, merci pour votre pour vos programmes, donc dont je me berce depuis l'enfance.
Bah, formidable. Allez-y.
Pour moi, France Inter, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Voilà. Je me demande dans quelle mesure l'ARN messager pouvait être un vecteur vers un vaccin contre le VIH. Vaccin qu'on attend depuis des dizaines d'années, voire davantage. On a l'impression que ça traîne. Mmh. On a l'impression surtout, et je voudrais terminer là-dessus, que les médicaments qui permettent le maintien d'une charge virale nulle sont prépondérants par rapport à l'effort qui est fait sur le vaccin. Voilà.
Merci Francis. On a entendu votre question, Steve Pascolo. Il faut répondre à Pascal. Moi, ce que j'avais compris, c'est que le virus pour le SIDA était plus insaisissable en fait, et que c'était bien la difficulté. Mais au fond, avec ce qu'est capable de faire l'ARN et ce qu'on a appris, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un moyen de le rendre plus saisissable justement grâce à ça?
Alors déjà, il faut dire que Moderna a lancé un programme de recherche de vaccin contre le virus du sida. Donc c'est en préclinique, ça ira bientôt en phase 1. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais malgré tout, effectivement, la difficulté avec le virus du sida, ce sont les variants. Dans le Covid, on parle des variants, il y a quelques variants. Mmh. Dans le virus du sida, chaque patient, chaque personne infectée a des millions de variants dans son propre corps. Ce virus fait des variants en permanence. Donc même si vous induisez une réponse immunitaire, et d'ailleurs le corps du patient réagit contre le virus, fait une réponse immunitaire, et là vous avez tout de suite des variants qui arrivent et qui échappent à la réponse immunitaire. Et donc le virus se crée un chemin en permanence, ça s'appelle immuno-editing, donc il se modifie en fonction de la réponse immunitaire pour lui échapper en permanence. Donc ça, c'est une difficulté technologique de faire des vaccins qui permettent de reconnaître des structures dans le VIH qui soient des structures qui ne se modifient pas, qui ne mutent pas, et ça, c'est un peu compliqué. Et il y a un autre problème pour le VIH, et ça, c'est un problème comportemental. Dans les essais cliniques, lorsque vous vaccinez avec des vaccins expérimentaux contre le VIH, le problème, c'est que les gens, s'ils se pensent protégés, vont avoir plus de comportements à risque. Mmh. Pour l'instant, effectivement, on peut empêcher les infections par le VIH en prenant ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie médicamenteuse, qui protège très efficacement. Et si vous vaccinez, les gens vont croire qu'ils sont protégés, ne vont pas prendre ces médicaments. Mmh. Et là, vous risquez d'empirer la pandémie de VIH. Et si vous avez un vaccin qui vous protège à 90%, ce qui est énorme, ce qui est dans la gamme des vaccins anti-Covid, est supérieur à ce que les vaccins anti-grippe font. Mais si vous protégez à 90% contre le VIH, vous allez empirer la pandémie, parce que les 10% de personnes qui ne sont pas protégées vont, eux, s'infecter parce qu'ils vont avoir des comportements à risque et ne pas prendre les médications qui leur permettent, pour l'instant, de se protéger de leur comportement à risque. Donc vous avez un double problème avec le VIH. D'abord, ce virus qui fait des variants en permanence. Et deuxièmement, le comportement qui fait que si vous vous sentez vacciné, vous allez prendre des risques. Or, la vaccination ne sera jamais à 100%. Et donc une vaccination à 90% qui va vous faire prendre des risques ne sera au bout du compte pas favorable.
Et du coup, il y a Steve Pascolo, il y a plein de questions qui nous viennent sur est-il vrai que l'ARN messager pourrait être utilisé comme traitement des maladies auto-immunes ? Je souffre d'un lupus, nous dit cette dame, merci pour votre réponse. On nous parle aussi de maladies comme l'Alzheimer ou comme le Parkinson. Est-ce qu'à un moment on se dit, et c'est ce que j'ai lu dans votre livre Fabrice Delay, à un moment on se dit que tous les champs sont possibles ? Est-ce que vraiment tous les champs sont ouverts ?
Oui, moi je le pense. C'est pour ça que je parle dans ce livre de révolution. C'est-à-dire, c'est exactement comme on a eu une révolution avec les molécules chimiques. Ensuite, on a eu la révolution des protéines recombinantes, hein, produites par génie génétique, l'insuline, l'érythropoïétine, etc. Aujourd'hui, on peut pratiquement, théoriquement, on peut fabriquer toutes les protéines, ou corriger toutes les protéines. Mais ça, c'est la théorie. Une fois qu'on passe à la pratique, ben la pratique, elle est clinique, et il faut adapter à chaque patient pratiquement, il faut pouvoir démontrer pendant des années qu'effectivement on a obtenu des résultats, mais le potentiel, c'est certain, est absolument énorme, et le champ est très large, avec des questions qui se posent sur quelles seront les bonnes doses, quels seront le type d'ARN aussi qu'on utilise, parce qu'il y a d'autres ARN que l'ARN messager, mais c'est clair que là on est vraiment, on a ouvert un champ absolument énorme. Je voulais juste aussi ajouter quelque chose pour répondre à Francis. Il y a, en plus de celui de Moderna, il y a Drew Weissman, qui est un des chercheurs dont je parle dans le livre, et qui est aussi potentiellement, on verra lundi s'il reçoit le prix Nobel de physiologie avec d'autres, le lance actuellement deux essais cliniques sur le HIV. Donc il y a de ce côté-là des choses importantes qui se passent. Et une autre chose qui est importante, je crois, à comprendre dans le passé, c'est le fait que beaucoup de ces recherches et beaucoup de ces progrès qui ont été faits, eh bien, en fait, ils datent de l'époque. À l'époque, ces gens ont beaucoup travaillé justement sur le sida. Et donc, en fait, ces recherches sur le sida aboutissent à des résultats qui auront aujourd'hui des résultats pour d'autres maladies.
On a déjà dépassé le temps, mais j'ai quand même une question dans les mains que je dois vous poser, Steve Pascolo, parce qu'elle revient tout le temps. On en a aussi parlé ce matin sur Inter avec le ministre de la Santé. L'ARN messager retarde-t-il les règles, oui ou non ? Y a-t-il un problème de ce côté-là ?
Non, pas que je sache. Donc maintenant, une forte réponse immunitaire peut amener donc de la fièvre, de la fatigue, qui elle, donc comme une infection et comme n'importe quel autre vaccin, si vous êtes un peu malade par rapport à l'injection du vaccin, si vous êtes fatigué, fiévreux, ça peut éventuellement avoir des impacts physiologiques à court terme. Donc ça n'est pas impossible. Pour juste répondre
très,
sur
très
les
vite, pardonnez-moi, parce qu'on est vraiment, on a très largement dépassé le temps. Allez-y pour 10 secondes.
Pour les maladies auto-immunes, le professeur Ugur Sahin, donc à nouveau de Mainz, de BioNTech, a publié cette année que dans des modèles expérimentaux, grâce au vaccin ARN messager, il pouvait déimmuniser au fait la réponse immunitaire et protéger contre la sclérose en plaques chez des animaux. Donc effectivement, on peut en théorie, pour n'importe quelle maladie, avoir des solutions ARN messager.
C'est la promesse d'une nouvelle émission. On a été ravis en tout cas de discuter avec vous deux et de vos nombreuses questions. À très vite.